Le burn-out est un mal de société de plus en plus répandu. Cette forme d'épuisement physique et émotionnel peut être considérée comme un échec dans la gestion de son quotidien. À l'occasion de notre parcours cette semaine autour des regards croyants sur les échecs de la vie, nous vous proposons une dernière rencontre avec une psychiatre spécialiste des accompagnements de personnes victimes de burn-out. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Françoise Yenny réalise cette édition.
À vue d'esprit, Michel Cocher.
Serge Carrel, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors votre tour d'horizon autour de l'échec se termine aujourd'hui par la rencontre d'une psychiatre spécialisée dans l'accompagnement des personnes atteintes d'un burn-out. On peut imaginer qu'elle a du travail d'ailleurs, cette dame.
Effectivement, elle s'appelle Christina Ayerly. Elle travaille dans le cadre du centre chrétien de thérapie Siloa à Gumligen, dans la banlieue de Berne. Et parmi les patients qu'elle accompagne, semaine après semaine, certains, alors pas tous, mais certains sont en arrêt pour cause de burn-out. Alors pas pour quelques jours de repos, pour surmenage, mais vraiment pour des périodes longues qui vont de plusieurs mois à une année, parce que, le saviez-vous Michel, on peut aujourd'hui sortir invalide à 100% d'un burn-out.
Sincèrement, je l'ignorais. Alors vous avez inscrit ce burn-out dans la série d'émissions autour des échecs.
Oui, parce que le burn-out m'est apparu comme une situation d'échec dans la gestion de son quotidien. Mais avant d'entendre Christina Ayerly s'exprimer sur le burn-out comme un échec, je lui ai demandé de définir plus précisément ce qu'il fallait comprendre par ce terme « burn-out ».
Le burn-out, c'est vraiment un état d'épuisement au niveau émotionnel, au niveau physique. En général, il y a des effets somatiques, c'est-à-dire du corps. Le corps réagit aussi avec des palpitations cardiaques, par exemple, des maux d'estomac, des maux de tête. La personne se sent épuisée sur une longue période et elle commence à avoir une certaine indifférence face au quotidien, face aux autres personnes. Elle commence à fonctionner sans être vraiment vivante et active avec toute sa personnalité.
Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans notre société souffrent d'un burn-out?
Ce qui est difficile, c'est que c'est très progressif. Le burn-out qui vraiment amène à consulter chez un médecin, en général, dure 9 mois jusqu'à ce que la personne prenne conscience qu'elle ne peut plus continuer comme ça. Donc, si vous voulez, dans les 9 mois où les choses sont en train de se préparer ou en train de se passer déjà, la personne essaye de maintenir une fonction et elle est en fait déjà dans un début de burn-out. Elle aurait meilleur temps de consulter à ce moment-là, au moment où les choses sont en train de se développer, que d'attendre les 9 mois classiques où la plupart des gens attendent pour consulter vraiment un médecin.
Vous dites que le burn-out met 9 mois pour quelque part apparaître, c'est un peu une sorte de grossesse, si je comprends bien. Et est-ce qu'il y a des signes qui finalement disent de manière très directe, maintenant stop, ou tu devrais peut-être t'arrêter un peu, parce qu'en fait tu souffres ou tu es en train de concevoir justement un burn-out?
Oui, la personne n'arrive plus à suivre au niveau de son travail, par exemple. La personne a des troubles de sommeil importants. Elle sent qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est le moment où il est bon de trouver un vis-à-vis qui prend les choses au sérieux et qui, par exemple, fait un arrêt de travail, le médecin qui donne un certificat d'incapacité de travail pour un temps, afin de faire le point de qu'est-ce qui est quoi dans cette situation. Et c'est sûr qu'il y a une phase où on doit examiner un peu la situation, voir quels facteurs jouent. C'est très variable, c'est pas une maladie qui a qu'un visage, ça dépend un petit peu de la personnalité.
Alors au niveau des symptômes, vous avez parlé de palpitations cardiaques, vous avez parlé de troubles du sommeil, est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors, il y a un épuisement émotionnel qui s'exprime par exemple par une irritabilité ou par une dépressivité selon la personnalité. Il y a des conflits qui se font avec l'entourage. Souvent, ça implique aussi des conséquences pour la famille directe. Par exemple, le père n'a plus de patience avec les enfants. Il n'est plus en contact vraiment avec sa femme. Il est pris par un tourbillon où il n'est plus la même personne qu'il l'était à l'habitude.
Donc si je vous comprends bien, là, il y a différents domaines où ce burn-out se manifeste. Il y a bien sûr l'activité professionnelle, j'imagine. Il y a la vie privée, il y a la personne, et puis il y a aussi en même temps la santé.
Oui, au niveau de la santé, c'est souvent le moment où le corps met comme un veto, dit on peut pas, il faut pas continuer comme ça. Et surtout pour un homme, ça peut être le moment où il se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas. Souvent, il va essayer de maintenir un rythme, de se surpasser malgré l'épuisement qu'il sent. Et c'est le corps qui peut donner une alarme importante. Et d'ailleurs, c'est aussi au niveau du corps qu'il peut rester des handicaps à long terme.
Alors là, vous parliez de l'homme masculin, j'imagine, parce que pour la femme, le burn-out se manifeste de manière différente.
Moi, je dirais que la femme prend plus conscience qu'elle est épuisée. Elle prend plus conscience que psychiquement, elle est sans joie ou sans entrain comme elle avait l'habitude. Donc, elle aura plus tendance à demander de l'aide parce que une femme va accéder plus facilement à une aide psychothérapeutique qu'un homme.
Donc, le burn-out serait avant tout une maladie, entre guillemets, masculine.
Pas vraiment. Je pense qu'une femme peut aussi passer par cette maladie, mais quand même, la situation actuelle de l'homme dans la société le rend plus vulnérable.
Est-ce que ça fait longtemps, Christina Hurley, qu'on parle du burn-out ?
Alors en fait, la première fois que ça a été utilisé, c'est il y a 30 ans.
Donc ce serait une maladie assez récente ?
Oui, je pense en tout cas dans cette description qui est actuelle, elle est récente. Auparavant, on parlait de neurasthénie ou d'autres expressions médicales ou d'une dépression moyenne ou grave. Mais en tout cas, c'est une notion qui a été étudiée assez en détail aussi par une psychologue, Madame Maslach, et qui vraiment le définit comme un phénomène quand même nouveau, un phénomène de ces derniers 30 ans, on peut dire.
Est-ce qu'il y aurait des liens avec certaines évolutions sociales qui feraient que cette maladie serait apparue dans notre société?
Disons, ce que moi je remarque, c'est que c'est aussi depuis 30 ans qu'on est entré dans l'ère électronique et qu'il y a beaucoup de moyens de communication qui ont été développés, des moyens très avancés, très intéressants en eux-mêmes, mais qui impliquent aussi toute une gestion qui n'est pas facile pour l'individu. Si je suis accessible sur 6-7 canaux différents, comment est-ce que je gère toute cette quantité d'informations, toute cette quantité d'attentes et de demandes? Il y a là probablement un parallèle avec le développement de ces nouveaux moyens de communication.
Christina Hurley, est-ce qu'on peut parler du burn-out comme une sorte d'échec?
Oui, je pense que le burn-out conduit la personne à une situation où elle se rend compte qu'elle a un déséquilibre dans certains domaines de sa vie et ce déséquilibre la conduit à un cul-de-sac. Et dans ce sens, c'est un échec pour la personne d'abord. Et c'est vrai qu'en suivant des personnes atteintes de burn-out, il y a tout un travail de reprendre confiance en soi-même, retrouver des repères, découvrir les choix qu'on a faits dans la vie et pouvoir aussi les assumer.
Quand on parle de burn-out comme d'un échec, on peut imaginer qu'il y a toutes sortes de sphères dans lesquelles cet échec se concrétise. Vous devez avoir très certainement le quotidien, on peut imaginer aussi la dynamique professionnelle, on peut aussi imaginer la relation aux autres, ou même peut-être la connaissance de soi, la connaissance de ses propres limites.
Oui, je pense que ce thème, ce dernier thème dont vous parlez, la connaissance de soi et de ses limites, est un des éléments clés. Chaque personne doit découvrir comment est-ce qu'elle est en équilibre avec son entourage, que ce soit familial ou professionnel, et comment est-ce qu'il trouve une harmonie entre lui et les autres. Dans la situation de burn-out, la personne prend tout d'un coup plus conscience de ses différents domaines et du fait qu'il a à les gérer, qu'il ne peut pas le permettre aux autres, ni à ses collaborateurs, ni à son entourage de décider pour lui.
Alors quand on parle d'échec par rapport à un burn-out, est-ce que c'est pas encore plus enfoncer la personne dans son état un peu maladif, un peu dépressif, un peu au bout du rouleau?
Oui, il y a un peu comme deux phases. Une première phase où il est important pour moi comme psychothérapeute d'accueillir la personne là où elle se trouve, de l'accompagner sur le temps dont il a besoin, où elle a besoin. Et à un moment donné, il y a aussi le fait de redonner l'envoi et de dire maintenant on va voir comment ça continue, comment vous pouvez reprendre. Et c'est sûr que là j'ai un autre rôle à jouer. Dernièrement, j'ai dû pousser quelqu'un à vraiment reprendre son travail, et c'est pas évident parce qu'on a deux rôles différents à jouer, mais c'est nécessaire. Ce qui est la réalité, c'est qu'avec chacun, on devra découvrir qu'est-ce qui est possible, et le burn-out grave peut conduire à un handicap où la personne peut être dans une situation d'invalidité partielle dans l'avenir.
Quand on vous entend parler de la manière dont vous accompagnez les gens qui souffrent d'un burn-out, c'est vraiment, dans chaque occasion, un accompagnement très personnalisé. Il n'y a pas de recette toute faite pour se remettre en route.
Non, il n'y a pas de recette toute faite parce que pour chaque personne est unique. Donc, dans chaque personne, il y aura différents facteurs qui vont jouer un rôle. Et même, il faudra découvrir avec certaines personnes qui ont peut-être des racines plus profondes qui conduisent à ce burn-out, par exemple des compensations qu'ils essayent de faire, un excès de travail mais qui est une compensation intérieure. Il faut aller même plus profondément dans les motivations face à la vie et même aborder le sens de la vie, aborder la question du sens du travail et de la vie.
Christina Yorli, à vous entendre, le burn-out, alors certes c'est un échec, et puis on en a abondamment parlé, mais c'est aussi une véritable chance pour un individu.
Oui, je pense que c'est une chance si cette personne cherche un vis-à-vis avec lequel il peut réfléchir à sa situation. Et dans ce sens, c'est vraiment un moment où l'équilibre peut être redéfini, où il y a un aiguillage qui peut se faire dans la vie, et donc un moment très créatif pour la personne.
Et là, vous auriez un exemple de quelqu'un qui aurait utilisé cette période d'arrêt pour véritablement se redéfinir, se montrer très créatif par rapport à sa propre trajectoire de vie?
Oui, je pense à une personne que je suis actuellement qui a eu un arrêt d'une demi-année et qui, dans les rencontres, a beaucoup réfléchi à son trajet de vie jusque-là. Il a aussi découvert qu'il avait des racines plus profondes au fait d'arriver à cet épuisement et il était d'accord de travailler là-dessus, de voir pourquoi cette motivation est là. Et je dirais qu'il y a eu des étapes de guérison à ce niveau-là. Il a aussi pris conscience que n'ayant pas d'enfant, étant marié, n'ayant pas d'enfant, il avait une part de deuil qu'il devait traverser encore plus clairement. Et aussi, au niveau de sa profession, il a réfléchi, fait un bilan de la situation actuelle, ce qui lui donne aussi de l'énergie pour reprendre la suite. Donc, à différents niveaux, cette personne a essayer d'être en contact avec elle-même. Et je dirais que ça, c'est un mot clé. C'est souvent reprendre le contact vraiment avec soi-même qui a été perdu en cours de route.
Dans vos publications, vous parlez à ce niveau-là d'une sorte de manière de renouer avec son fil d'or. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à ce propos-là?
Oui, j'appelle ce fil d'or un lieu très précieux, un lieu où il y a un filon intéressant à suivre. Et qui finalement est, je dirais, le sens profond de la vie de chacun, le fait de découvrir qu'est-ce qui me tient dans la vie, qu'est-ce qui fait sens, aussi face peut-être aux aléas de la vie quotidienne, aux choses qui sont par exemple un échec, qu'est-ce qui me donne vraiment un fondement de vie, qu'est-ce qui me tient vraiment dans la vie.
Et là, de manière assez systématique, c'est quelque chose que vous essayez de promouvoir dans vos accompagnements avec une personne qui souffre d'un burn-out?
Oui, ici, dans notre centre, nous voulons être ouverts à accompagner les personnes aussi au niveau du sens de leur vie. Et donc, dans les premiers entretiens, je demande aussi à la personne où est-ce qu'elle se situe, si elle a aussi une vie de foi, par exemple, si elle croit à quelqu'un qui est en-dessus de lui, ou s'il dépend que de lui-même et de ses propres forces. Et les personnes sont généralement très ouvertes à parler aussi de ce domaine-là à un moment donné.
Mais c'est-à-dire que dans notre société, aujourd'hui, on est très souvent un peu aliéné, on est un peu étranger à véritablement ce qu'on est soi-même au plus profond?
Oui, je dirais que si on regarde tous ces domaines dont on vient de parler, on a oublié un domaine qui est le domaine de la spiritualité, ce domaine où nous, comme êtres humains, on découvre qu'il y a une place en nous qui ne peut être remplie que par l'amour de Dieu, par exemple, qu'il y a un vide en nous que ni le travail, ni l'argent, ni les biens matériels peuvent remplir. Et que ce lieu doit être pris en considération aussi dans la gestion de l'équilibre de vie. Si je n'ai personne en-dessus de moi qui est plus fort, qui a plus d'autorité, je suis livrée à beaucoup de choses, je suis quelque part sans protection.
Christina Yerli, en quoi une saine spiritualité permet peut-être de se prémunir contre le burn-out?
Alors, c'est quelque chose dont je suis convaincue, qu'une spiritualité saine est un apport important pour la santé psychique d'abord et pour la gestion du quotidien. Et ça fait 15 ans que je travaille comme psychiatre et que j'essaye d'intégrer cet aspect-là dans ma thérapie. Que les personnes puissent découvrir aussi cet aspect-là de leur vie humaine, l'aspect de pouvoir avoir une relation, et une relation satisfaisante, une relation d'amour avec un Dieu aimant. Et que par ce fait, les priorités peuvent aussi être redéfinies, et je peux aussi recevoir par ma vie spirituelle des éléments que peut-être avant je cherchais au niveau relationnel ou au niveau professionnel, et cela me décharge.
Vous auriez un exemple concret par rapport à cela, ces attentes qu'on aurait à l'endroit de son entourage par exemple, et puis qui tout à coup peuvent être quelque part satisfaites au travers d'une relation à Dieu?
Oui, je pense à une dame que j'ai suivie qui était très prise par le travail. Elle travaillait à 200% et jusqu'à épuisement. C'est à ce moment-là que je l'ai vue et qui a découvert qu'au fond, il y avait un vide en elle. Et elle a commencé à découvrir cette relation d'amour avec Dieu. Et par la suite, elle a décidé de changer de travail. Elle a trouvé un travail où elle était beaucoup plus protégée aussi au niveau des horaires. Et pour le moment, elle dit qu'elle se sent toute bizarre du fait qu'elle n'a pas le même modèle qu'avant. Et elle doit découvrir comment trouver un nouvel équilibre pour elle-même dans cette nouvelle situation. Mais en tout cas, elle a fait des choix qui lui permettent d'acquérir des nouvelles possibilités.
Donc là, du point de vue concret, cette relation à Dieu viendrait quelque part satisfaire une sorte de boulimie d'activité?
Oui, cette boulimie d'activité est une forme de compensation. C'est une personne qui a vécu sans père, elle n'a pas eu un père présent. Et donc le fait de découvrir que Dieu est son père, que cette paternité qu'elle cherchait, elle peut la découvrir dans un Dieu paternel, c'est une grande découverte pour elle.
Est-ce que vous auriez d'autres dimensions qui vous permettraient de dire, ben voilà, ça c'est une spiritualité saine, d'autres axes qui, à votre sens, au travers de votre expérience, vous font dire que là, il y a quelque chose d'important que toute personne en mal de burn-out devrait essayer d'intégrer?
Oui, je pense qu'une saine spiritualité conduit la personne à vraiment devenir libre. Ça veut dire qu'elle arrive aussi à dire plus facilement non. Très souvent, les personnes qui arrivent à un burn-out sont des personnes qui collaborent beaucoup, qui sont très faciles à s'adapter aux demandes extérieures. Et le fait de découvrir qu'il y a un Dieu qui prend soin de lui ou d'elle leur permet de découvrir plus profondément leur dignité et à se faire respecter aussi dans leurs limites et à savoir qu'elles n'ont pas à se dépenser au-delà de ses possibilités. Donc c'est comme si une saine spiritualité donne une bonne liberté et une force nouvelle, mais aussi je pense qu'une saine spiritualité est un lieu où la personne est nourrie vraiment.
Qu'est-ce que vous entendez par la nourrie vraiment? Parce qu'il y aurait des spiritualités qui quelque part n'apporteraient rien ou ne nourriraient pas?
La seule chose que je peux dire, c'est que, en tout cas, la Bible parle par exemple de l'eau vive ou du pain vivant. Et c'est des symboles qui montrent que accéder à ce type de contenu nourrit vraiment et amène à la vie. Et je pense aussi une saine spiritualité vitalise, nous donne un sens, mais aussi une vitalité nouvelle. Mais pour moi, c'est très important qu'elle ait un contenu. Et la base sur laquelle je me guide, c'est la Bible. En particulier que Jésus aussi dit « Venez à moi et je vous donnerai ce repos. Hein, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai le repos. » Et je pense que c'est subtilement dans une relation avec Dieu, avec son Fils Jésus-Christ, que cet échange nourrissant se fait. Et on a perdu dans notre société accès à cette nourriture simple qui a vraiment un contenu.
Est-ce qu'il y aurait des spiritualités qui, quelque part, courraient vers le burn-out, à votre sens, Christina Ayerly?
Oui, on peut aussi encourager une spiritualité des œuvres, par exemple, où on se dépense à l'excès, comme on le fait au travail, on le fait par exemple dans une communauté religieuse, où c'est aussi de nouveau sans limite. Il y a certainement des formes de spiritualité qui ne sont pas en équilibre, et surtout pas un équilibre entre ce que j'apporte, ce que je donne, et ce que je peux aussi recevoir, là où je me ressource moi-même. Et je pense qu'un des éléments à développer suite à un burn-out, et je pense pour chaque personne qu'elle ait un burn-out ou pas, c'est cet équilibre entre le moment de ressourcement et le moment où j'apporte à d'autres.
Donc finalement, à vous entendre, on pourrait souffrir d'une sorte de burn-out en matière de spiritualité.
Oui, vous me donnez une idée, disons. Je pense que effectivement qu'au niveau spirituel, on peut aussi être dans un déséquilibre, comme dans le domaine du travail ou dans le domaine des relations.
Christina Ayerly, on n'est pas tous à souffrir d'un burn-out, mais on peut imaginer quand même que dans notre quotidien très frénétique, on puisse essayer de développer des stratégies anti-burn-out. Alors concrètement, vous-même en tant que psychiatre, qu'est-ce que vous proposeriez ?
Alors je propose que les personnes aient une conscience de leur rythme de vie, que s'ils ont un temps où ils sont beaucoup engagés, ils aient des temps de repos par la suite. Aussi même de faire des courtes pauses pendant la journée. Ça peut être simplement de regarder un moment par la fenêtre, très consciemment, ou d'avoir une petite sieste courte pendant la journée. Donc le fait de se reposer au fur et à mesure est une stratégie importante. Le fait de pouvoir dire non et d'apprendre à dire non là où on a des difficultés à le faire peut être une stratégie très importante. Le fait que lorsque le rythme s'accélère, tout d'un coup dans une journée, j'ai beaucoup de demandes qui se font en même temps, que la personne puisse s'arrêter à un moment donné et dire « bon, si maintenant je déplace une partie de mon travail, est-ce que c'est grave ?» Et très souvent, là, il y a une détente qui peut se passer dans le fait de se rendre compte que je peux déplacer quelque chose ou que je peux simplifier une structure de la journée, et la personne doit prendre conscience qu'elle a à gérer le temps et elle a à gérer la quantité de demandes qui arrivent. Et bien sûr, avec le nombre de moyens de communication que nous avons maintenant, avec tous ces canaux aussi par l'électronique, d'autant plus je dois apprendre à gérer tous ces canaux et tout ce qui arrive comme demande.
Dans votre accompagnement de personnes qui viennent vous visiter et que vous accompagnez au fil du temps, est-ce que c'est un point important sur lequel vous mettez l'accent, que les gens entrent dans ces stratégies, qu'ils apprennent véritablement à changer de manière de se comporter ?
Tout à fait, c'est un point essentiel, parce que s'il n'y a pas ce changement-là qui se fait, s'ils ne peuvent pas entraîner ces qualités-là, le danger de nouveau épuisement, de nouveau burn-out est très près.
Alors est-ce que vous-même, au niveau des personnes, des patients que vous suivez, c'est un apprentissage que les gens font facilement, ces stratégies anti-burnout ?
Je dirais qu'actuellement, je suis plutôt des personnes qui sont dans une situation grave, qui ont à l'arrière-fond encore d'autres problèmes psychiques. Et pour une telle personne, c'est un chemin relativement long pour apprendre à mieux poser ses limites, à mieux dire non, que ces personnes qui vont consulter peut-être un médecin de famille, qui doivent redéfinir leurs priorités et qui peuvent peut-être faire un chemin plus accéléré dans le fait d'apprendre à poser des limites.
La psychiatre et psychothérapeute Christina Ayerly évoquait à votre micro, Serge Carrel, la réalité du burn-out comme échec dans la gestion de sa propre vie. Alors deux mots, Serge, sur cette femme qui nous vient du canton de Berne.
Oui, c'est en effet dans la banlieue de Berne que cette psychiatre consulte dans le cadre du centre chrétien de psychothérapie de Gumligen. J'ai fait sa connaissance grâce à un article qu'elle a publié dans la revue de réflexion théologique Rockma, un article intitulé « Le burn-out illustré par une histoire inventée ». Sorte de, non pas de théologie, mais de récit médical narratif.
Récit médical narratif que vous retrouvez dans cette revue Rockma donc. Et si vous souhaitez avoir les coordonnées et les références de cette revue comme d'autres informations bibliographiques, eh bien ne manquez pas de visiter notre site religion.rsr.ch. Vous y trouverez toutes ces informations. La semaine prochaine, nouvelle édition d'A Vue d'Esprit, bien sûr, c'est Pierre-Yves Moret qui vous proposera une série d'émissions autour des 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci d'être resté en notre compagnie. Excellente fin de semaine à tous. François Zianni réalisait cette émission. Serge Carrel et Michel Cocher avaient le plaisir de vous accompagner. Bon week-end et à bientôt. Au revoir.